Il est 13h.
Just ain't right. And when I think about how she used to hold me, she used to hold me late at night. Now she's gone, I'm sad and blue. I guarantee won't another man love her like I do.
Chicago qui redémarre après deux semaines d'absence. Et oui, Sweet Home Chicago, c'est reparti pour ce rythme de un samedi sur deux, le samedi à 13h jusqu'à 16h, 3 heures de blues rien que pour vous. Et on vient de démarrer avec le disque coup de cœur du mois, l'album de Mr. Sip qui s'appelle Knock a Hole in It. On est ensemble jusqu'à 16h et on aura deux invités aujourd'hui. On va démarrer tout à l'heure vers 13h15, 13h20 avec Laurent Galichon, guitariste de Red Beans and Pepper Sauce, qui va nous présenter son album Red. Et ensuite, en tout début de deuxième heure, ce sera Tia Gutebel pour nous présenter elle aussi son tout nouvel album. On va écouter un extrait bien sûr de chaque avant et puis ensuite, parole aux artistes, parce que voilà, Sweet Home Chicago, c'est pas que des disques qu'on écoute les uns à la suite des autres, même si c'est très agréable, mais c'est également des échanges autour du blues par exemple, mais pas que, et puis l'état de cette musique là en 2017, c'est ce que j'aime bien aborder avec les invités en général. Laurent Galichon en première heure, Tia Gutebel en deuxième heure, et puis je n'oublie pas vos dédicaces, il y en aura 8 aujourd'hui. On va faire plaisir, du moins on va essayer faire plaisir à Mickaël Zonfrio, Thierry O, Bruno Daniel Zic, Bernard Marie, Alain Jalbert, Arnaud Didier et DFIH, Stéphane Calem et Céline Coudray. Voilà, quelques-uns auditeurs et auditrices parmi vous qui souhaitaient peut-être obtenir une dédicace à leur tour. Ce sera possible pour la prochaine émission, celle du 30 septembre, en allant vous inscrire tout simplement sur le Facebook Sweet Home Chicago. On va poursuivre avec une nouveauté, il y en aura encore une autre juste derrière, mais là je me sers du sampler de Soulbag qui est sorti hier. Je vous parlerai du nouveau numéro de Soulbag, numéro 228, ainsi que le numéro 86 de Blues Magazine tout à l'heure, parce qu'ils viennent d'arriver dans les boîtes aux lettres et puis dans les kiosques évidemment. Le sampler de Soulbag qui est donc paraît tous les 6 mois, hein, puisque Soulbag est un trimestriel, mais il y a un sampler 14 titres exclusifs à une parution sur deux, les numéros pairs de Soulbag. C'est le numéro 228 qui sort, un magazine qui existe depuis 1968, rendez-vous compte. On va profiter de ce sampler avec le tout nouvel album de Saron Crenshaw qui s'appelle Driving, et le titre album justement. Alors ça, c'est le truc parfait pour écouter en bagnole, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, pourquoi pas vous.
On this car. That daggone salesman, I think he done got over on me, man. But I'm gonna take this car back and see if I can get my money. My warranty's about to run out. Listen to me. Driving around
genre de titre qui a un très très gros drive. Le truc qui démarre plus à la fin. Saron Crenshaw Driving, un album qui sort en ce moment et dont ce titre-là figure sur le sampler Soulbag, la sélection Blues and Soul. C'est des samplers numéro 36 pour le 228e numéro de Soulbag qui va célébrer, disons, le 100e anniversaire de Johnny Hooker, s'il n'était pas disparu en 2001. Johnny Hooker, charmeur de cordes, un dossier spécial centenaire concocté par la rédaction de Soulbag. On y trouve également des interviews, comme d'habitude, DJ Bridgewater, Carl Weathersby, The Common Mamas, Black and Blue, le jubilé, Luther Allison, alors là, un grand sujet sur Black and Blue avec Luther Allison, entre autres, Blind Boys of Alabama, on écoutera un extrait de leur nouvel album qui figure également sur le sampler, American Epic, Miles Sanko, Reggie Young, Jamie Liddle, Julian Fosse également, qu'on écoutera tout à l'heure, Rebecca Day, Dom Stafunk, Doyle Bramall, Corey Sesnek, et puis 180 chroniques de CD, de livres et de DVD, c'est tout ça dans le numéro 228 de octobre, novembre, décembre 2017 de Soulbag, un magazine qu'on peut retrouver pas dans tous les kiosques, mais presque. En tout cas, si vous l'avez trouvé dans un kiosque et que dans 3 mois il n'y est plus, c'est que vous pouvez le recommander. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. À partir du moment où un kiosque reçoit Soulbag, il peut en recommander d'autres avant la parution du prochain numéro. Voilà, je vous parlerai tout à l'heure de Blues Magazine. En attendant, voici Red Beans and Pepper Sauce, l'album Red. On va écouter, comme on l'avait fait il y a quelques semaines, le tout premier titre qui s'appelle Bad Quarter Moon, et ensuite, promis, je passe un petit coup de fil à Laurent Galichon, le guitariste. Si vous avez des questions à lui poser, vous allez sur le Facebook Sweet Home Chicago. Voilà, je voulais vous remettre ce morceau-là parce que c'est avec ce titre que s'ouvre l'album Red de Red Beans and Pepper Sauce. Ça s'appelle Bad Quarter Moon. Et puis, on a donc Laurent Galichon, le guitariste au téléphone. Salut Laurent.
Salut.
On t'entend pas trop mal. Comment ça va?
Bah écoute, ça va très bien.
Bon, alors là on est clairement dans le sud. On est sur Perpignan, la région en tout cas.
Un petit peu plus à l'est.
Un petit peu plus à l'est vers Béziers. Vas-y. Quel endroit?
Ouais, vers Béziers.
Vers Béziers.
Ouais, Béziers-Montpellier. Bah.
D'accord, Béziers-Montpellier. Moi, ça reste très au sud pour ici, parce que tu sais que passer au nord de Figeac, il fait froid en ce moment. Hein. Et puis ici, voilà, la Normandie, l'été indien, on l'attend pour 2018, clairement. Comment ça va en cette presque veille, j'allais dire, de sortie d'album, Laurent? C'est un disque qui va sortir le 21 septembre, qui a demandé beaucoup de travail au groupe.
Comme les autres, mais on a pris un petit peu plus de temps pour celui-là. On a mis, entre le moment où on a commencé à écrire les premiers trucs, on a commencé à faire des maquettes, et le moment où il sort, il se sera passé à peu près un an et demi.
J'ai l'impression que ça a pris du temps. On pourrait peut-être résumer pour les auditeurs qui ne connaissent pas encore le groupe Red Beans and Pepper Sauce, quel est votre parcours? Quand est-ce que le groupe a démarré? Quand est-ce que vous êtes formé?
Bon, le groupe a démarré il y a longtemps, en 2010. J'ai commencé moi à bosser sur les premières compos qui avaient donné le premier album. Puis il y a eu des changements d'équipe. Et puis là, ça fait 4 ans qu'on est dans la même direction avec pas de changement du line-up. Et donc, c'est le deuxième album qu'on fait avec la même équipe. Et maintenant, je trouve que c'est bien. On a trouvé notre voix. C'est un petit peu plus rock qu'au début du groupe, et on va essayer de continuer dans ce sens-là.
Alors un petit peu plus rock, un petit peu moins blues forcément, avec un équilibre à 5, avec une chanteuse et 4 musiciens derrière. Tu penses que l'alchimie est trouvée, ou le groupe va continuer à évoluer à travers les styles, à travers les influences de chacun d'entre vous?
Oui, on continue toujours d'évoluer, mais je pense que là on est de plus en plus proche de ce qu'on a tous envie de faire, de ce qu'on a tous plus ou moins dans la tête au moment de commencer à écrire les morceaux, quoi.
Alors oui, on va le préciser, écrire des morceaux, ça veut dire que c'est à 10 titres avec uniquement des compos, hein, c'est ça? Comment vous fonctionnez? Comment ça marche ce groupe? Parce que déjà, la chanteuse n'est pas tout à fait dans le même coin que tout le reste de l'équipe. Je crois qu'elle est sur Paris.
C'est ça.
Comment est-ce que vous créez les titres? Comment est-ce que vous arrivez à vous voir suffisamment souvent quand même pour qu'il y ait une unité de groupe?
Avec les moyens modernes, aujourd'hui, on est quasiment tous équipés pour avoir des petits home studios.
Ouais.
Ce qui fait que moi, en général, je commence l'écriture, puis j'enregistre un peu tous les instruments chez moi, basse, batterie, guitare. Puis j'envoie ça aux autres. On fonctionne beaucoup avec Internet, en fait. Même avec Denis, le bassiste, qui habite à 5 minutes de chez moi, on fonctionne plus par Internet qu'en se voyant. Et donc, voilà, j'envoie comme ça des pré-maquettes à tout le monde. Et puis chacun réfléchit, chacun amène sa petite influence, son idée. Et une fois que tout ça est mis en maquette, on travaille avec Jess sur les mélodies, parfois avec les textes, parfois avant les textes. Et puis, à la fin, quand on est assez satisfait du résultat, là, on enregistre tout en studio chez Nico Saran, le batteur du groupe, qui a réalisé les deux derniers albums.
Nico Saran, le batteur, Denis Bourdier, le bassiste, au piano, c'est Serge Osier, au chant, on l'a dit, c'est Jessica Hacquet, et puis toi, à la guitare, voilà, un équilibre trouvé, avec également un guest sur ce disque-là, je crois qu'il y a un Armo qui intervient, Pierre Andisson.
Oui, voilà, il y a Pierre Andissoa qui est un excellent musicien du côté de Montpellier, qui avait déjà fait une jolie carrière dans le milieu du blues en France et même en Europe avec un groupe qui s'appelait les Marvelous Pignos.
Oui.
Et puis les gens de ma région connaissent Orange Blues et c'est un musicien fantastique, un grand chanteur, un grand harmoniciste. Et donc ça faisait très longtemps que j'avais en tête un jour peut-être de pouvoir faire une collaboration avec lui. Et comme Nico, le batteur, a joué dans les Marvelous Pignos, ça a été facile de faire le rapprochement pour cet album. On devait faire un titre ensemble et puis comme ça s'est super bien passé, on en a fait deux.
Alors deux titres donc qui font partie de ce disque, un album qui sort, on l'a dit, le 21 septembre, qui s'appelle Red. Pourquoi Red? Et puis pourquoi au départ Red Beans and Pepper Sauce? Est-ce que c'était en lien avec la cuisine louisianaise par exemple ou pas du tout?
Ouais, si, c'est ça. C'est ça, en fait j'avais remarqué, bon, je suis jamais allé aux États-Unis, mais je suis de près ce qui se passe à la Nouvelle-Orléans, parce que c'est une ville mythique pour les musiciens, pour les amateurs de blues et de cette musique-là. Et puis c'est vrai que là-bas, dans la culture de la cuisine, tu trouves des haricots rouges partout, même si c'est pas l'élément principal, ils sont partout. En fait, j'ai fait un parallèle entre ça et le blues dans notre musique, qui est la base, les racines. Nous, c'est clair que c'est du blues, mais évidemment, on fait autre chose, on sort de là, des fois ça va un peu vers la soul, des fois ça, c'est un petit peu plus rock, mais il y a toujours du blues, il est toujours là, il sert de lien entre les choses, parfois il est juste dans une phrase guitare, parfois il est dans les structures, ou parfois il est dans un riff, ou même dans les textes, mais il est toujours là, tu vois.
Ouais. Alors, tu parles de rock également dans ta musique, ça s'est clairement entendu dans le titre tout à l'heure. Plutôt rock années 70, j'ai envie de dire, c'est quand même l'école Led Zeppelin, hein, pour simplifier, mais il y a sûrement d'autres ramifications. Tu peux nous en parler de ces influences-là?
Oui, tout à fait. Moi, c'est la musique avec laquelle j'ai grandi. Donc, effectivement, Led Zeppelin, tout à fait. Mais on peut mettre aussi Jimi Hendrix, moi, qui est le guitariste qui m'a le plus influencé. Et puis, on peut parler aussi de Deep Purple, etc. Ou même les Stones. Et en gros, si tu veux, c'est ces groupes-là, moi, qui m'ont amené vers le blues, puisque eux se sont inspirés du blues pour faire du rock. Et donc, bah, voilà, c'est mes influences. Donc, forcément, quand j'écris, les choses sont assez voisines, quoi. On est dans cette direction-là.
Pour les gens qui aiment cette musique-là, celle qui a été créée il y a maintenant, entre 30 et 40 ans, est-ce que tu penses que dans les productions actuelles, en dehors, bien sûr, de Red Beans and Pepper Sauce, est-ce qu'on peut y trouver son compte? Est-ce qu'il y a toujours des groupes qui sont influencés par toute cette école-là?
Ah, mais complètement. Il y a des groupes actuellement en Europe qui tournent sur les gros festivals et qui sont dans cette direction. Moi, je pense à Blue Pills, qui est en train de faire quelque chose d'intéressant au niveau européen. Et puis, en plus connu, tu as aussi Rival Sons, qui reste un super groupe avec un super guitariste. Et on est dans cette direction très, très 70s, mais avec une production moderne, quoi. On cherche pas forcément à aller chercher des enregistrements qui feraient un petit peu daté, tu vois.
Ouais, ouais, ouais. On s'en rend bien compte, il y a ne serait-ce que par l'intro du titre qu'on vient d'entendre. On va se le remettre, tiens, juste pour. Voilà. Tu vois ? Alors, imagine, on coupe là, et juste après, il y a un morceau électro qui arrive, ça départ pas du tout, quoi.
Ça peut, ouais. C'est Nico qui réalise, qui fait ce genre de trucs. Bon, lui, il aime ça, l'électro. Il en a d'ailleurs déjà produit. On essaye de rester ouvert, puis que cette musique continue d'évoluer. Moi, j'ai écouté assez récemment les derniers albums de Jeff Beck, où il y a beaucoup de programmation dessus. Ça tourne vers l'électro, et pourtant, c'est Jeff Beck qui est là avec sa guitare, toujours avec ses sons hallucinants. Et tout ça se marie très bien. C'est une modernisation du truc, quoi.
J'avais pensé à Jeff Beck pour citer quelques influences que j'ai reconnues un petit peu, pas forcément que dans ton jeu d'ailleurs, mais également dans on va dire dans l'orchestration, hein, globale, sur ce disque-là précisément, qui, on l'a dit en début d'interview, a pris pas mal de temps au niveau de la gestation. Je voudrais savoir quelle était la part de Jessica, la chanteuse, dans la création du disque.
Ah ben, elle prend de plus en plus de part à la création, puisque jusque-là, moi, j'arrivais avec les morceaux, avec les mélodies, la plupart du temps. Et sur celui-ci, on a vraiment écrit toutes les mélodies à deux. Moi, j'arrivais avec des idées, parfois c'est elle qui arrivait avec des idées. Elle a même écrit un morceau toute seule qui s'appelle Fly Night, qui est une des balades. Là, c'est elle qui a écrit entièrement la mélodie. Je lui ai juste filé une petite guitare, c'est elle qui s'est débrouillée. Et donc, elle s'investit de plus en plus dans l'écriture, et c'est tant mieux, parce que, bon, ben, un chanteur, forcément faire des lignes mélodiques plus intéressantes que ce que je pourrais faire moi.
Ah, tu penses vraiment?
Ben oui, il y a. C'est-à-dire que moi j'écris des lignes mélodiques, mais elles sont pas du tout interprétées, elles sont assez. Il reste encore beaucoup de travail une fois que j'ai écrit une mélodie, alors qu'elle arrive avec la mélodie et avec déjà son interprétation, avec déjà des choses autour. Donc ça part de moins loin, c'est plus précis, c'est plus riche souvent, parce que voilà, ouais, je suis chanteuse et que moi je suis pas chanteur.
Tu n'es pas chanteur, tu n'as jamais essayé, même bah, choriste quand même.
Si, c'est arrivé, on a fait des fois dans des boeufs ou dans des concerts qui duraient un peu longtemps, ça m'arrivait d'en chanter une de Clapton ou d'Hendrix.
Tu veux dire
ça, mais on reste dans la copie de quelque chose qui existe déjà. Chanter une compo, moi j'aurais du mal.
Oui, bah ça c'est pour le fun, pour le coup de la chaleur de la soirée qui passe, quoi, mais
voilà.
en espérant que personne ne filme à ce moment-là, je sais pas.
non, je... pas,
point, mais bon,
non, je dis ça.
Allez, on y va.
Je dis ça, je ne devrais pas, je t'ai pas entendu chanter, donc voilà. Moi-même, je ne chante pas du tout, donc tu vois, je m'interdis cet exercice-là.
Je préfère vraiment laisser ça à Jessica, qui le fait 100 000 fois mieux que moi, et je pense que la plupart des gens qui viennent nous voir seraient d'accord avec moi.
Ouais, ouais, ouais. Et puis au niveau jeu de scène également, on peut en parler, parce que ça, c'est quelque chose que vous avez pas mal travaillé, j'ai l'impression, ces dernières années. Bon, tu l'as dit, le groupe remonte à 2010 pour le tout premier line-up, et puis on en est à 7 ans d'existence maintenant. Je pense que, bah, pour vous avoir vu, c'est pas tout à fait récent, mais c'était il y a un an sur les rendez-vous de l'Erd, je vous avais vu également précédemment à Cahors. Il y a eu des progrès, j'ai envie de dire, au niveau jeu de scène, au niveau communication avec le public, aller chercher les gens, aller les empoigner pour qu'ils participent au show.
Mais il fallait qu'on travaille là-dessus, parce qu'on s'est rendu compte au tout début, que vraiment on avait des carences à ce niveau-là, et que donc il fallait travailler le spectacle, le show. Donc ça, c'est Jess qui s'en est beaucoup, qui est beaucoup investi là-dedans aussi, qui a réfléchi, et donc on essaye maintenant d'organiser le spectacle en serrant les morceaux, on essaye d'enlever le vide, on essaye de bouger, d'aller chercher le public, comme tu dis, pour essayer de mieux communiquer. Nous, on ressent beaucoup d'énergie quand on est sur scène, oui. Entre nous, dans le jeu, mais des fois, c'est le gars qui est en bas, il ne la ressent pas forcément.
Ça, c'est quelque chose dont vous vous êtes aperçu vous-même, ou c'était des retours de la part des amis qui vous regardaient jouer?
Ben, on a commencé à s'en apercevoir à partir du moment où il y a eu, tu sais, il y a beaucoup de vidéos maintenant, après les concerts.
Oui.
Il y a toujours une ou deux vidéos qui traînent sur le net, donc en regardant, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire quand même mieux. On s'est dit, il y a quand même la place pour faire mieux.
Voilà, le regard de l'autre, c'est important. Écoutez l'autre également, peut-être à l'occasion de la création de l'album. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez réussi à prendre du temps pour avoir du recul, refaire d'autres prises, changer le mixage? Comment ça s'est passé, la création du disque?
Ben, comme je te disais tout à l'heure, on a tout maquetté tranquillement, en prenant le temps. Bon, après, on avait aussi beaucoup de dates, donc on pouvait pas partir dire, allez, pendant 3 mois, on s'arrête, on va faire que ça. Mmh. Donc, dès qu'on avait une pause d'une semaine ou deux, on s'y remettait. On a pris vraiment le temps de faire les arrangements. Donc, une fois qu'on est sur le truc et qu'on va en studio, en général, il n'y a plus grand-chose qui change. Mais ça peut arriver encore. J'ai en tête un morceau, donc presque un tiers de la dernière partie, le morceau Smiling Child, qui est un morceau un petit peu funky. Toute la dernière partie du morceau a été rajoutée au dernier moment dans le studio, parce que pendant que j'enregistrais, j'ai eu une idée de riff funky à la guitare. Je l'ai enregistré comme ça. J'ai dit à Nico, tu feras ce que tu veux par-dessus. C'est lui qui a fait, voilà, il a rajouté des batteries, il a rajouté des basses.
C'est le truc qu'on est en train d'écouter en ce moment, c'est ça?
Voilà.
Allez, on s'en fait quelques secondes si tu veux bien, Laurent.
Allez.
Alors moi, je trouve qu'au niveau du rythme sur ce genre de d'intro comme ça, il y a une grosse recherche au niveau du son pour les percussions, enfin, surtout si on écoute au casque, comme c'est mon cas actuellement, ça groove tout de suite, quoi.
Ouais, Nico est vraiment un batteur, j'allais dire exceptionnel, enfin, moi je suis assez fan de son jeu, et surtout c'est un batteur qui a passé beaucoup de temps en studio sur Paris il y a quelques années, et qui maintenant est dans son studio personnel, et qui a vraiment une science de la prise de son, et puis du rythme, quoi. Il va toujours chercher des choses, il va toujours chercher des percussions, il réfléchit beaucoup à sa façon d'agencer les rythmes. C'est très intéressant de travailler avec lui, mais c'est un batteur, un percussionniste, c'est vraiment un spécialiste du genre.
Il y a des musiciens français qui vont de temps en temps enregistrer aux États-Unis. Ça, c'est quelque chose que c'est un besoin que vous ne ressentez pas du tout, vous cinq, hein?
Oui, bon, ça a l'air compliqué à faire. On n'a pas vraiment le besoin de ça, mais on est en train de travailler sur une collaboration, je peux pas encore dire avec. Mais pour 2018, on a plutôt de faire venir un producteur américain qui a l'habitude, pour essayer d'avoir une son différente.
D'accord.
Et pour enregistrer ça, faire un one shot, quoi, sur un des morceaux de cet album, ou peut-être si on a écrit une nouvelle compo d'ici là. Et pour enregistrer ça dans un studio, live, juste un one shot, et puis faire une petite vidéo avec lui, comme ça, pour faire une collaboration. On est en train de plancher sur ça. Ouais.
Il y a déjà eu un album live de Red Beans and Pepper Sauce.
Oui, ouais. Tout à fait. On a fait un album live. C'était un DVD ou plutôt une vidéo sur Internet.
Ouais.
On a eu la chance d'être filmé par je ne sais plus combien de caméras le nom du festival m'échappe maintenant. Oui, Jazz Vocal à Cré.
À Cré, oui, ouais, Crest.
Dans la Drôme.
Dans la Drôme, exact. Ouais.
Voilà, donc on a eu la chance d'être filmé là-bas par une super équipe et donc d'avoir cette jolie vidéo qui est sur YouTube d'ailleurs, on peut le voir, je crois qu'il y a une heure de live à peu près.
C'est peut-être à partir de là, justement, le fait d'avoir mis ce DVD comme ça sur Orbit, que vous êtes aperçu de peut-être certaines. Tu parlais du mot carence, peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas des choses à retravailler au niveau du jeu de scène. C'est à partir de ce live-là ou pas forcément?
Pas forcément de ce live, on avait déjà commencé à y réfléchir avant, ouais. On y réfléchit toujours d'ailleurs. De toute façon, tout le monde peut progresser en permanence. Bon, après, on ne peut pas faire un show à l'américaine avec des explosions non plus, on n'aurait pas les budgets, mais. Oui, toutes les vidéos, on regarde à peu près tout, on essaye de tout voir, tout ce qui sort de ce que les gens nous ont filmé, que ce soit dans un bar ou dans un festival, et puis on essaye de voir ce qui va pas et de le corriger.
Voilà, donc pas forcément de pyrotechnie dans un bar, mais quand même un pédalier bien fourni pour les amateurs et puis les guitaristes. Est-ce que tu peux nous dire sur quel matos tu joues, que ce soit au niveau guitare, pédale et ampli?
Alors, pour l'ampli, celui qui me suit partout en studio et sur scène, c'est un ampli Plextone, mais ce n'est pas une marque, c'est pas une grande marque connue, c'est un fabricant d'ampli qui faisait des amplis sur mesure à Toulouse et qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui.
D'accord.
C'était un magasin bien connu des Toulousains et donc il a beaucoup réparé pendant des années des vieux amplis, des iWatts ou des vieux Marshall, quoi, et puis donc il a fait sa marque là, Plextone, qui est une sorte de. Ça copie un peu les vieux Marshall ou les Marshall, comme on dit, des 70s, quoi. Donc voilà, c'est des amplis avec beaucoup de dynamique, avec un assez gros son, ce qui me cause évidemment beaucoup de problèmes dans les cafés-concerts, voire même dans certains festivals.
J'ai l'impression que c'est un peu similaire à l'ampli qu'utilise, même si c'est pas dans le même style, un certain Rob Tognoni. Je sais pas si tu l'as déjà vu, lui.
Ah non, je ne le connais pas.
Alors, écoutez, pour vous avoir vu tous les deux, moi j'ai trouvé que l'ampli ressemblait beaucoup, que ce soit au niveau aspect physique et puis rendu sur scène. Tu l'as dit, c'est vrai que c'est peut-être avec un certain volume qu'on peut obtenir le grain souhaité pour ce genre d'ampli, non?
Oui, de toute façon, oui, les amplis en général, il y a toutes sortes. Il y a des amplis de 18 watts, il y a des amplis de 40 et puis 100. Je crois même que Blackmore s'était fait faire un Marshall de 200 watts, un Marshall lui-même. Effectivement, il faut leur cogner un peu dans les lampes, quoi, les amplis, pour faire sortir un peu le grain. Puis il faut faire bouger les boomers. Hein. Le boomer, il faut qu'il bouge, sinon il n'y a pas de son. Mais bon, voilà, j'utilise pas que cet ampli. En studio, j'utilise un vieux super reverb qui date de 68, que j'ai réussi à dénicher après maintes recherches, qui est un ampli assez exceptionnel, mais que j'utilise quasiment qu'en studio. Je couple les deux souvent. Où je joue en même temps, où je fais double prise. Et puis après, question guitare, c'est classique, hein, j'ai une Strat, c'est une signature John Mayer que j'aime beaucoup.
D'accord.
J'ai une Les Paul standard, un Dobro électrique, parce qu'il y a quelques morceaux comme ça qui sont joués type slide guitare. Et puis après, c'est vrai que j'ai un pedalboard.
Tu parlais de Jimi Hendrix tout à l'heure, il y a une Crybaby forcément dans le dos.
Alors c'est une Wawa, mais c'est pas une Crybaby.
Non, d'accord.
C'est une Real McCoy, qui est pareil, un petit fabricant de Wawa, je crois qu'il est en Californie, qui fait du super matos. Je l'avais trouvé dans un magasin à Panama, je crois, là. Je ne me rappelle plus le nom du magasin, mais je l'avais trouvé là-bas. C'est vraiment des super pédales Wawa qui sont censées être inspirées des premières Vox italiennes, un truc comme ça.
D'accord.
Ensuite, bon, après les distos... rentrer. Tu veux que je rentre dans le détail?
Écoute, il y a forcément des guitaristes qui écoutent et qui vont prendre des notes, alors pourquoi pas? Il y a plusieurs overdrive, je pense, quand même.
Ouais, j'ai trois étages.
Ah, si tu veux
Ouais, j'ai une Maxon qui me sert de tube screamer juste pour avoir un peu de crunch. J'ai une BB Bream qui me sert pour faire un truc un peu plus costaud. Et puis, pour la Strat essentiellement, mais je l'utilise de plus en plus avec la Les Paul, j'ai une Fuzz. Fabriqué par le même gars qui a fabriqué mes amplis, donc une Fuzz Plextone qui avait été fabriquée. C'est la deuxième qui m'a fabriqué. Pour la petite anecdote, la première qui m'avait fabriqué avec que des pièces d'époque et qui aurait dû me revenir a été achetée à Toulouse dans son magasin par Joe Bonamassa.
Ah d'accord. Bon, il t'a coupé
donc, si un jour je croise Joe, je lui dirai tu as ma pédale. Donc il m'en a fait une deuxième et voilà. Et Bonamassa était là pour faire la première partie de ZZ Top à Toulouse et puis en visitant le magasin. Il m'a raflé ma pédale. Voilà. Sinon, après, ouais, il y a un octaveur, écho, trémolo, une reverb Holy Grail. Et puis voilà, c'est à peu près tout.
Ah ben c'est déjà oui, énorme, j'ai envie de dire. Et puis tout ça, ça fait le son de guitare du groupe Red Beans and Pepper Sauce, avec, on le disait tout à l'heure, une quarantaine de dates hein, par an, avec une bonne balance, j'imagine, entre festivals, grandes salles et petites salles, et bars aussi peut-être encore.
On continue à faire certains cafés-concerts, bon, on ne peut pas les faire tous, mais il y a un certain nombre d'endroits qui nous ont accueillis au tout début, quand personne parlait de nous, et on essaye de rester assez fidèles avec
ça, les gens. Ça, c'est bien, ça, c'est bon esprit.
Qui nous aident, donc on continuerait dans certains endroits où, bon, évidemment, il y a de plus en plus de matos, donc on fait de plus en plus de bruit. Il y en a où, malheureusement, on ne peut plus, parce que sinon, il faudrait pousser les murs, mais on essaye de continuer, voilà. Et puis, évidemment, maintenant, il y a des salles. Je pense au Brand Zinc qu'on va faire à début février. Et puis il y a des festivals, il commence à y avoir beaucoup de festivals. Puis on sort du pays aussi, on est allé plusieurs fois en Suisse.
Voilà, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que vers le nord, par exemple, le nord-est, l'Allemagne, le Benelux, la Scandinavie, il y a des appels du pied pour vous?
Oui. Et puis en plus, on essaye de développer le truc là-bas. On part début octobre pour la Hollande pour faire un petit festival. Et puis derrière, je crois qu'il y a une autre salle de prévu. L'Allemagne nous a vachement plu sur la petite tournée qu'on y a fait cette année. On va essayer d'y retourner aussi vite que possible. Et puis voilà. Puis après, il y a des festivals, il y a des choses qui sont pas encore signées, donc je peux pas donner de nom, mais on devrait probablement jouer dans le Nord, enfin, parce que j'ai envie de dire enfin, parce qu'on a pas mal de fans qui nous suivent sur Facebook et qui me demandent toujours quand est-ce que vous venez dans le Nord.
Alors pour toi, le Nord, toi qui es du côté de Béziers, Montpellier, Montperpignan, pour toi, le Nord, ça commence où?
Le vrai Nord, la région.
Ah, la région
le
Nord.
Le département Nord.
Les Hauts-de-France.
Nous, c'est à peu près. Le Nord, nous, c'est à peu près orange.
Oh putain. Et tu sais que pour nous, le Sud, c'est Nantes, hein, quand même. Voilà.
C'est vrai? Ah, ouais.
Et voilà. Chacun ses références, effectivement. J'en arrive à une presque dernière question. Laurent Galichon, guitariste de Red Beans and Pepper Sauce, qui officie depuis plusieurs années maintenant, mais qui reste un jeune musicien. Est-ce que tu as déjà, toi, un recul et puis un avis par rapport à la scène blues française? Est-ce que tu penses qu'il y a eu une évolution dans un sens ou dans un autre, que ce soit en qualité ou en quantité?
Ah oui, moi je trouve que c'est dynamique. Je vois des groupes qui émergent assez fréquemment, puis je vois des groupes qui confirment, qui sont là depuis quelques années, un peu comme nous, quoi, qui on se croise des fois sur les festivals. Donc je trouve que c'est assez dynamique, c'est bien vivant, c'est assez novateur, ça va chercher des choses. Il y en a certains qui sont plus influencés par le blues, un blues beaucoup plus roots que nous, on va dire. Et puis il y en a d'autres un peu plus rock. J'ai vu qu'il y avait Laura Koff qui a fait beaucoup de choses cet été sur des festivals. C'est très rock et c'est vachement bien. Puis bon, on avait croisé à Nantes aussi Gaël Buswell.
Ouais.
Puis là, je sais que tu vas recevoir Tia tout à l'heure. Donc j'ai écouté les disques il y a quelques années. On a joué beaucoup dans un café-concert vers chez nous. Et le patron avait l'air d'être assez pote avec Tia. Donc il nous passait de temps en temps soit des disques, soit des enregistrements qu'il avait fait dans son bar quand il l'avait reçu, etc.
D'accord.
J'avais trouvé ça vachement bien.
Très bien, merci de ton avis éclairé. C'est vrai, on va dire, on conclut sur une note optimiste et joyeuse. La scène se porte bien, peut-être qu'au niveau des endroits, par contre, pour y jouer, peut-être que c'est pas tout aussi folichon que ça n'a été. Je sais pas si, à quelque échelle que ce soit, la France n'est pas quand même un petit peu frileuse par rapport à la musique live en général. Ça, c'est une impression personnelle que je te livre. Tu la partages ou pas, évidemment.
Je trouve que c'est un constat, la culture de sortir pour aller voir un concert, on la retrouve plus facilement dans d'autres pays, de ce que j'ai pu voir en Suisse ou en Allemagne. C'est plus fréquent pour ces gens-là de dire bah tiens, on va aller voir un concert en France.
Mais moi, ça fait longtemps que j'ai réfléchi à ça, je pense que c'est dû à la très grande qualité de notre programmation télévisée.
Pourquoi pas? Bon, après moi tu sais, je vis dans le sud profond.
Ouais.
On a aussi une particularité ici, c'est que presque la moitié de l'année, alors pas la moitié, tu vois, j'exagère, un bon tiers de l'année, les gens chez nous vivent dehors.
Ouais.
Donc ils vont pas aller se mettre dans une salle pour il faut faire des concerts dehors,
ouais.
Évidemment, mais ici c'est très on va dehors dès qu'on peut sortir. Alors là, et puis ici la musique elle est plus festive, un peu moins anglo-saxonne. Bon bah c'est comme ça, il y a des Il y a des régions plus, il y a des régions moins.
Bah oui, ça, c'est la particularité de la France, c'est d'être axé de tous les côtés, que ce soit du côté de l'Espagne pour toi, du côté de l'Italie pour le sud-est, et puis du côté du nord ou carrément de l'Angleterre, comme c'est le cas de la Normandie. Nous, on est très branchés British Blues, hein, par chez nous, dans le nord aussi, et puis on est tous branchés. Je pense que tu partages aussi blues américain, blues roots, et puis blues rock, bien entendu. L'album s'appelle Red, rouge, hein, tout simplement. Le groupe, c'est Red Beans and Pepper Sauce, c'est quatre garçons et une fille qui s'appelle Jessica, et l'album sort le 21 septembre. Comment peut-on se le procurer, Laurent?
Alors l'album est en vente, il est déjà en précommande là jusqu'à jeudi. Il est sur notre site, tout simplement sur www.redbeansandpeppersauce.com, et puis il est possible de l'acheter également pour ceux qui ont arrêté avec les disques et qui sont passés au dématérialisé. On peut l'acheter en MP3 sans aucun problème, et puis il finira par être sur d'autres plateformes, genre Amazon ou des trucs comme ça, mais c'est en cours.
Ça marche. Les prochaines dates pour aller voir Red Beans and Pepper Sauce, il faut aller jusqu'où?
Alors là, jeudi, évidemment, pour la sortie d'album, chez nous, à Béziers, on fait un petit concert de sortie d'album à la salle Zingazanga. C'est pas un petit concert, parce que c'est une grosse salle. Et puis deux jours après, on fait le Rockstore à Montpellier, où on partagera la scène avec un groupe 100% féminin qui s'appelle les Lady Ballbreakers. Ladies Ballbreaker, qui est un tribute à CDC, mais 100% féminin.
D'accord, ça va être
ça. Et puis ensuite, on part en tournée, donc comme je te disais, on part vers la Hollande, mais avant, on fera une petite escale à Lons-le-Saunier, au Cœur de Bœuf, qui est une salle où c'est la troisième fois qu'on va y jouer. On adore cette salle. D'ailleurs, la pochette de l'album a été réalisée là-bas.
D'accord.
Ils avaient des murs rouges, et puis une jeune fille photographe qui nous a filé un coup de main. Et puis, région parisienne aussi, où on jouera à la SMAC le nouveau cap à Aulnay-sous-Bois, et juste avant de rallier la Hollande.
Voilà. Très bien. Eh bien, on va continuer à prendre contact avec le groupe et à connaître son actu. Il y a forcément un blog ou un site internet sur lequel on peut accuser de l'info. Et puis Facebook, bien entendu.
Oui, voilà, sur Facebook. Bah oui, maintenant, ça prend même plus de... Je pense qu'on a plus de visites sur Facebook que sur les sites.
Ah oui.
Et puis, pour ceux qui veulent venir nous rencontrer sur le site, d'abord, on répond. Si vous nous envoyez des messages, on vous répondra avec plaisir. Et puis, on vient de sortir un nouveau clip. Je vous encourage à tous à aller le regarder.
Très bien. Bah, j'irai voir, et puis je le mettrai sur le lien dans la timeline de Sweet Home Chicago. Merci, Laurent, pour tout ça. Et puis, bon week-end à toi, puis bonne suite à l'album. Tu diras bonjour à tout le monde quand tu les reverras. Red Beans and Pepper Sauce, l'album s'appelle Red. On va écouter un nouvel extrait dans quelques secondes. Salut à toi, Laurent, merci.
Merci, bye bye, merci beaucoup.
Au revoir.
Bye.
groupe s'appelle Red Beans and Pepper Sauce et l'album c'est Red. Encore merci, grand merci à Laurent Galichon, guitariste du groupe, pour cette interview. On va écouter un nouvel extrait, un troisième extrait. Ça s'appelle Flying High. La belle voix de Jessica Ake sur ce titre qu'elle a composé pour l'album Flying High, extrait de Red, l'album de Red Beans and Pepper Sauce. Encore merci à Laurent pour cette interview et puis longue vie bien sûr à Red Beans and Pepper Sauce. On poursuit avec le disque coup de cœur du mois et ensuite ce sera déjà notre second invité. Laurent l'a introduit tout à l'heure, c'est Tia bien sûr, l'album Lil Bird. J'avais oublié le deuxième mot du titre de l'album tout à l'heure, quelle honte. Lil Bird, petit oiseau, Tia, voilà, au téléphone. Et puis comme d'habitude, si vous avez des questions à poser à nos invités, on est en direct là, c'est samedi 16 septembre 2017, hein, voilà, juste pour vérifier si on est bien en direct. Vous posez vos questions vous-même sur le Facebook Sweet Home Chicago, je me ferai un plaisir de les transférer à nos invités. Voici Mr. Sip, l'album Knock a Hole in It, nouvel extrait.
Things we used to do.